Louis et son père Charles VII, petit retour en arrière. Jamais ils ne se sont entendus. Charles VII ne comprend pas ce fils qu'il trouve ténébreux. Louis ne comprend pas que son père préfère sa maîtresse à sa femme, la reine. Effectuons un petit retour en arrière pour tout comprendre. Louis XI n'est pas un démon, ce n'est pas un ange non plus. On dirait de lui aujourd'hui qu'il a beaucoup de mal à digérer son complexe d'Œdipe. C'est-à-dire qu'il ne parvient pas à s'entendre avec son père. Et ce père, Charles VII, ne fait rien pour arranger l'affaire. Élevé loin de ses parents, dans des milieux simples, ce qui lui donnera toute sa vie ce langage et cette allure qui le font prendre pour un homme issu du peuple. Louis rejoint son père à l'âge de 14 ans. Ce ne sont pas les grandes amours entre le père et le fils, au point qu'en 1439, Charles VII envoie ce fils distant et sournois loin de lui, en Languedoc. Il a pour mission de ramener la paix dans la campagne mise à sac par des bandes de pillards. Son sens politique, ses habiletés diplomatiques font merveille. Il accomplit même sa mission au-delà de ce qui lui était demandé. Non content d'avoir ramené à la raison les pillards, mais aussi les seigneurs turbulents, il fait alliance avec ceux-ci pour mener la Praguerie, révolte contre le roi de France, son père, qui a décidé que les armées ne seraient plus seigneuriales. Charles VII, fort mécontent et très jaloux, ordonne le retour immédiat de ce fils trop habile. Louis demande alors le Dauphiné, cette province qui comprend les actuels départements de l'Isère, des Hautes-Alpes, d'une partie de l'Ain et de la Drôme, revient depuis 1349 à l'aîné des fils du roi, le Dauphin. Dauphin, Dauphiné. Compris ? On écrit Dauphin avec une majuscule car, à l'origine, il s'agit d'un prénom, Delphine. Le Dauphiné sera réuni à la couronne royale en 1560. Charles refuse de donner à Louis le Dauphiné. Louis demande alors de l'argent pour s'installer dans ses meubles. Nouveau refus paternel. Louis passe sa colère en se mettant à la tête d'une armée qui déloge les Anglais d'Harfleur. Louis revient vers son père qui s'empresse de l'envoyer dans le Midi mater le comte d'Armagnac en 1443. Mission difficile, mais parfaitement réussie. Retour à Paris. Charles VII trouve sans tarder une nouvelle mission à son fils, plus difficile, plus périlleuse encore. Il s'agit cette fois d'apporter de l'aide à l'empereur des États germaniques, Frédéric d'Autriche, à qui les terribles Suisses donnent du fil à retordre. Louis se met à la tête d'une bande d'écorcheurs qu'on veut éloigner du royaume. 2000 Suisses les attaquent par surprise, près de Bâle. La résistance est acharnée et finalement, Louis remporte la victoire. Les 2000 Suisses sont tués. Mais les Autrichiens s'effraient de la troupe de Louis qui se montre menaçante. Louis, calmement, négocie à la fois avec les Autrichiens qui lui donnent quelques villes d'Alsace et avec les Suisses dont il apprécie l'efficacité guerrière. Revenu à la cour, Louis a besoin d'argent. Nouveau refus paternel. Louis comprend d'autant moins ce refus que Charles VII se montre fort généreux avec sa favorite, la belle Agnès Sorel. Louis rumine sa colère. Il vit à l'écart de l'insouciante cour, se réfugie auprès de sa mère, Marie d'Anjou, solitaire et bafouée dans sa dignité de femme. Il passe son temps à comploter. Lors d'une soirée de fête, en novembre 1446, Louis commet l'irréparable. Il rencontre Agnès Sorel, lui reproche les relations qu'elle entretient avec son père, met la main à son épée et finalement lui donne une gifle. Charles VII est très choqué par cet événement. Éloigner ce fils violent devient une urgence. Il lui accorde sans tarder le Dauphiné et l'y envoie dès le 1er janvier 1447. La mission de Louis, veiller aux intérêts du roi en Italie du Nord. Charles VII va gouverner encore pendant 15 années. Et pendant ces 15 années, le père et le fils ne se rencontreront plus.
François Villon, le mauvais garçon. 1431 à Paris. En deux jours, on pend au gibet de Montfaucon 62 malandrins qui infestent les alentours de la ville. La famine sévit dans la capitale au point que le samedi 14 mai, 1200 personnes, sans compter les enfants, quittent la ville parce qu'elles n'ont plus de quoi manger. Cette année-là, naît François de Montcorbier, tôt orphelin, et qui sera recueilli par maître Guillaume de Villon, chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné, près de la Sorbonne. Maître Villon donnera son nom au petit François. François Villon va devenir maître S.A.R., mais il fréquente des bandes peu recommandables en ces temps troublés, au point qu'il va être impliqué dans deux meurtres. Banni de la ville de Paris le 8 janvier 1463, il n'y reparaîtra plus. Et personne ne connaîtra sa fin. Il nous laisse le lait et le testament, deux œuvres majeures de la poésie française. Un extrait ? Voici. Hé, Dieu, ce j'eusse étudié, où tant de ma jeunesse folle, et à bonne mœur dédiée, j'eusse maison et couche molle. Mais quoi ? Je fuyois à l'école, comme fait le mauvais enfant, en escrivant ceste parole. À peu que QR ne me fend. Le testament. 26.
Louis s'épanouit enfin en Dauphiné. Et il prend très au sérieux son rôle. Il révise le système d'imposition qui comportait beaucoup d'exemptions au profit des plus riches. Il crée un parlement, une armée régulière, interdit les guerres privées entre les seigneurs locaux. Il réglemente la chasse, l'exploitation des forêts. Il installe des banquiers juifs à Briançon, crée une université à Valence. Il met au point un système de communication rapide entre les villes en utilisant des hommes à cheval qui emportent à toute allure des messages ou des paquets qui sont disposés dans des relais prévus à cet effet. Ce n'est pas écrit « la poste », mais c'est tout comme. Charles VII suit tout cela de près et il s'en montre encore jaloux. Aussi, lorsque Louis lui demande d'épouser Charlotte de Savoie, la fille de son voisin, elle n'a que 11 ans. Le roi se fâche et refuse son consentement. Il ordonne à Louis de revenir à la cour afin de se soumettre à son souverain de père. Louis n'en fait qu'à sa tête. Il épouse Charlotte à Chambéry le 9 mars 1451. La jeune épouse n'ayant que 11 ans, la consommation du mariage est remise à plus tard. Aussitôt, Charles VII menace d'envahir la Savoie. Des pourparlers sont engagés qui traînent jusqu'en 1455. Août 1456, Charles VII décide d'attaquer son fils. Louis préfère s'enfuir. Il laisse le gouvernement du Dauphiné à un ami, Louis de Laval. Le 30 août, 50 cavaliers l'accompagnent vers le nord. Il ne se sent en sécurité qu'à son arrivée sur les terres de Philippe le Bon, le Bourguignon, celui qu'il appelle affectueusement son oncle. Quel prétexte trouver pour aller se réfugier ainsi chez celui qui, malgré le rapprochement opéré contre les Anglais, demeure le rival de son père ? Louis en trouve un et en informe son père. S'il est allé chez le Bourguignon, c'est pour préparer une croisade. Arrivé à Bruxelles, Louis y est reçu avec beaucoup d'honneur, honneur qui redouble lorsque Philippe le Bon, revenu d'une campagne aux Pays-Bas le 15 octobre, est de retour. Cependant, Philippe ne souhaite pas faire la guerre à Charles VII pour l'intérêt de Louis. Il préfère laisser faire le temps, en accordant à son neveu une pension royale et un château immense, celui de Genappe, au sud de Bruxelles. Dans cette pension dorée, Louis apprend que son père Charles a envahi son Dauphiné. Le coup est rude. Mais oncle Philippe est là. Il console Louis en faisant venir à ses frais Charlotte de Savoie. Lors de son mariage avec Louis, elle n'avait que 11 ans, elle en a 18 maintenant. Et c'est une superbe jeune fille que Louis voit arriver au château de Genappe en juillet 1457. Le couple peut alors consommer le mariage. En mai, l'année suivante, naît un petit Louis. Louis déteste toujours autant son père Charles. Il fait infiltrer la cour par des espions qui lui donnent presque chaque jour des nouvelles de la santé royale. Car Louis a prévu, dès la mort de papa Charles VII, de se mettre à cheval afin de se précipiter sur le trône. Il craint que son frère Charles, duc de Berry, de Normandie et de Guyenne, s'en empare. En attendant, inscrit à l'université de Louvain, Louis perfectionne son italien. Il occupe ses loisirs à la chasse, respecte ses devoirs religieux. Mais d'argent, point. Si bien que Louis est contraint de faire des économies. Il acquiert alors une réputation d'avare, qui le poursuit encore aujourd'hui. Transportons-nous à Paris, le 10 juillet 1461. Charles VII, dont l'état de santé s'aggrave depuis 1458, a mal aux dents. À cette époque, on n'extrait pas les dents, on les arrache. C'est ce qui se passe. Et l'arrachage étant plutôt bûcheron, une infection se déclare rapidement, qui dégénère en phlegmon. Le phlegmon provoque une sorte de congestion cérébrale. Le roi est persuadé qu'on l'a empoisonné. Il est presque sûr que ce sont des agents de son fils qui s'en sont chargés. Cette dent qu'il conserve contre son fils est complètement étrangère à la dent arrachée. Il est atteint simplement d'une septicémie. Le 22 juillet, à 58 ans, 5 mois et presque toutes ses dents, Charles VII rend le dernier soupir.